10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On vous retrouve tous les samedis pour parler ensemble et déconstruire les préjugés. Speak Uni, je vous rappelle, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue et bon week-end. Yacine Ilmi est avec nous. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous, bienvenue.
Voilà, chef d'entreprise dans le numérique. Mais vous faites beaucoup de tellement de choses, j'ai du mal à vous suivre.
Bah, je suis chef d'entreprise dans le numérique et je m'occupe d'un institut aussi qui accompagne les imams pour apprendre le français et aussi les institutions.
Bien. Vous êtes habillé comme un ministre en visite officielle aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un rendez-vous?
Rendez-vous d'affaires, tout simplement.
Ah, c'est ça. Bien.
Vous pouvez voir ma photo sur le Facebook de Speak Uni. Donc, vous tapez Speak Uni et puis on partagera les photos.
Voilà, et on voit comment vous êtes bien habillé, c'est ça?
Oui, ben, à côté de moi, on a Claude Aurel, que vous présenterez aussi.
Qui est bien habillé aussi, Claude. maintenant, je ne vais pas dire non. Voyez, Yacine, comment vous m'embêtez. Non, Claude Aurel, vous avez un habit de radio, je veux dire. C'est formidable.
Ça fait moins ministre, ça fait plus apostrophe.
Et vous voyez,
mission de culture. Voilà.
Merci Ismaël de venir à mon secours parce que je savais pas comment me dépatouiller bien. Voilà, professeur de philosophie et vous avez dirigé le diplôme universitaire qui était consacré alors ça s'appelait interculturalité, laïcité et religion. Voilà, vous expliquez la laïcité à beaucoup d'élèves, notamment des imams.
Des imams, exactement. Entre autres.
Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de l'action d'Alix Paulmier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Alix, vous êtes présidente fondatrice de Fox P2. Qu'est-ce que c'est que Fox P2?
Fox P2 est une association loi 1901 et c'est également qui s'appuie en fait sur un site web. Ce site web met en relation les familles et les jeunes en situation de handicap partout en Europe, dans le but de faciliter leur mobilité, les voyages linguistiques, les stages à l'étranger, parce qu'on part du principe que les familles partagent les mêmes aménagements et les mêmes compétences dans la prise en charge du handicap. Et donc, c'est une solution qui doit permettre une plus grande égalité des chances au moment de l'accès aux études et à l'emploi.
Bien, on expliquera un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, votre site est primé, voilà, et c'est temps. Voilà, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc vous avez toujours besoin d'argent pour fonctionner.
Ouais, et d'adhérents, et donc que les gens qui sont concernés par le handicap, qui ont un jeune en situation de handicap, s'inscrivent en disant mon fils ou ma fille a tel ou tel type de pathologie, il souhaite partir en Angleterre ou en Allemagne ou en Espagne pour améliorer son anglais ou parce que juste il a envie de visiter le pays et on va lui trouver dans la base de données une famille présentant à peu près les mêmes caractéristiques.
Ismaël Mounirella, imam conférencier, très présent sur les réseaux sociaux, des vidéos, des séminaires, des voyages, beaucoup de choses en 2019. Bienvenue Ismaël Mounir.
Merci, bonjour, salam alaikum.
Beaucoup d'actions en 2019.
Comme en 2018, en fait, ouais, on continue dans la lancée.
Voilà, vous organisez nos Omra dans pas très longtemps.
Ah, au mois de février, oui.
Mais je suis de très près votre voyage en Inde.
Au mois d'avril.
Ouais, partons en Inde en avril.
Exactement.
Reste des places?
Il reste quelques places, ouais.
Ouais, c'est de quand à quand?
Alors, j'ai pas les dates exactes, mais c'est fin avril.
Voilà, combien de temps? J'ai vu le programme, ça fait rêver. Voilà, hein.
Pendant les vacances scolaires d'avril, pour ceux qui sont en région parisienne.
Comment fait-on pour s'inscrire?
Il y a tout sur Internet. Hein. Moi, je suis très connecté, donc il suffit d'aller sur Internet. Sinon, il y a un numéro de téléphone,
l'imam c'est
06 95 06 70 28. Voilà, 06 95 06 70 28 pour toute info.
Voilà, pour le voyage en Inde, notamment pour ceux qui aimeraient découvrir ce merveilleux pays. Et puis Patrick Lagarde est avec nous. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Voilà, trésorier de la Fédération protestante de France. On va parler du handicap, hein, et notamment de la question du handicap du point de vue religieux. Maintenant, on ne dit plus handicapé. Vous avez vu que le mot a disparu. On va voir, Yacine, le mot que nous avons appris en justement préparant cette émission cette semaine.
Bah en fait, c'est pas un mot, c'est un ensemble de mots que j'ai trouvé, qu'on avait trouvé intéressant. C'est un terme officiel qui a été adopté par le Conseil œcuménique des Églises qui désigne, on n'appelle plus les personnes handicapées, mais on dit des personnes aux potentialités différentes. Des personnes aux potentialités différentes. Donc c'était quelque chose qui m'avait intrigué et que je voulais partager avec vous.
Il y a peut-être le désir de dépouiller un petit peu le côté péjoratif qu'il peut y avoir au mot handicap. Potentialité différente, je pense que c'est...
Non. Oui, que malgré qu'une personne peut être handicapée, mais peut avoir d'autres potentialités ou d'autres potentiels qu'elle peut mettre en avant, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord, Alix?
Non. réfléchis.
Oui, je réfléchis. C'est vrai que le mot handicap recouvre des réalités qui sont très, très différentes. Et ça, c'est un...
C'est un... C'est ça qui complexifie la question.
Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément énormément de rapports entre... une sclérose en plaques et une maladie mentale où il n'y a pas forcément énormément de rapports entre une schizophrénie et un glaucome. Donc c'est un mot qui englobe des réalités physiques, psychiques, des réalités de dépendance ou des réalités sociales qui sont extrêmement différentes. Une fois qu'on a fait le passage et qu'on est relativement tranquille avec ce mot de handicap, je ne me sentirais pas très à l'aise, je trouve ça très long, avec des potentialités différentes. Je ne sais pas. Ça ne me parle pas. Voilà.
Mais on est quand même dans une société qui ne nomme plus les choses parce qu'elles sont et qui trouve toujours des expressions un peu plus enjolivées, ce qui fait qu'au final, on ne parle plus vraiment de la même chose. C'est important de nommer précisément les choses. Même déjà, quand on dit personne en situation de handicap, ça alourdit quand même beaucoup la chose dont on parle. Ça veut dire que finalement, les handicapés, ça n'existe plus.
Voilà, en situation de handicap, je le défendrai un peu plus sur ce que la notion que ça recouvre. Ça veut dire que le handicap est lié à une situation particulière. C'est ça ce que ça sous-entend. Et qu'avec les aménagements adaptés, le handicap disparaît si la compensation est en place. Donc le en situation de handicap me paraît recouvrir une approche qui est intéressante, même si la circonvolution en termes de vocabulaire est un peu longue et un peu en, voilà. La réalité qu'elle recouvre est intéressante comme approche. C'est-à-dire quelqu'un qui est en fauteuil roulant, une fois qu'il est installé à un poste de travail dans son ordinateur, il n'y a pas de situation de handicap. Et donc il est bien en situation de handicap s'il doit se déplacer dans la ville. Mais pas quand il est à son bureau. C'est ça ce que ça veut dire.
Claude Ruel, c'est sur la sémantique. Est-ce que pour vous c'est important ou pas, finalement, quand on parle de handicap?
Moi je rejoindrais un petit peu ce que dit Alix, parce qu'enfin, la proposition... De ce langage venant d'ailleurs d'un monde anglo-saxon et en particulier américain du politiquement correct, me semble effectivement, et vous le disiez très bien, finir par évacuer la réalité même de la chose. Donc ça, c'est plus fâcheux que le souci...
C'est plus de quoi on parle au bout d'un moment.
Voilà, que le souci de
pour faire plus joli, voilà. D'une certaine façon, pour enjoliver le...
Et donc, je crois qu'il faut se méfier un petit peu des euphémismes, des tournures un petit peu trop longues, et que, bon, un handicap étant handicap, effectivement, l'expression « en situation de handicap » est déjà beaucoup plus parlante, puisqu'il y a le mot « situation », et elle est située, situable, précise. Pour le reste... je crois qu'au fond, je connais une excellente journaliste aveugle, je ne dirais pas son nom, mais bon, et je dis exprès aveugle parce que dire non-voyante ou malvoyante, bon, et on pourrait encore trouver des périphrases qui seraient au fond encore beaucoup plus éloignées de la réalité.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Claude, la racine du mot handicap, elle vient d'où?
Je pense pas que ce soit un mot français, je pense que c'est un mot britannique.
Ouais, handicap.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Pardon. Handing.
Bon, j'ai un mauvais accent.
Non. C'est
la main dans le chapeau.
Oui.
Et le mot français alors?
C'est un mot anglais. C'est un mot d'origine anglaise.
D'origine anglaise.
Oui. Ce qui est, on n'a pas. Au fond, on a sandwich qui est aussi un personnage, mais on n'a pas beaucoup de mots britanniques en français. Mais là, on a effectivement un mot d'origine anglaise, handicap. Oui.
D'accord. Et sandwich, ça veut dire quoi?
Sandwich, c'est un monsieur qui c'était un noble anglais qui était un joueur extraordinairement fixé sur son jeu, et pour ne pas perdre de temps, comme il fallait quand même qu'il se nourrisse un petit peu, il avait demandé qu'on lui compose un menu, et comme il s'appelait Monsieur Sandwich, on a appelé les petits morceaux de pain en général avec du concombre par exemple, pour faire très britannique, et bien on lui servait ça et on appelait ça donc des sandwichs de son nom.
Parce qu'il a inventé le sandwich. Alors, ceci n'a rien à voir avec le sujet qui nous réunit ce matin, mais les îles du nom Sandwich, donc c'est Monsieur Sandwich qui les a achetés.
Sans doute lui ou un de ses oui, de sa famille, oui, bien sûr, tout à fait.
Patrick Lagarde.
On parle de sémantique. Dans la Fédération protestante de France, il y a non seulement des églises, mais il y a ce qu'on appelle des œuvres et des mouvements. Et en particulier, j'en citerai une, elle s'appelle la Fondation John Bost. Fondation John Bost, imaginez environ 3000 lits, 3000 employés s'occupant de personnes avec un handicap mental ou des handicaps mentaux, des polyhandicapés souvent.
D'accord.
Elle a été fondée par un pasteur à un moment donné qui s'appelle John Bost. Il y a 150 ans de ça. Et au moment de la séparation de l'Église et de l'État, finalement, ou des Églises et de l'État, puisqu'on en parlait tout à l'heure, précédemment, d'un côté les Églises, de l'autre côté les œuvres et mouvements. À l'époque, on soignait les fous. Je dois dire que la notion de handicap me va, handicap mental, polyhandicapé, me va beaucoup mieux que la notion de fou, qui avait pris d'emblée, enfin, a pris dans le temps quelque chose qui n'allait pas. Et la devise de cet homme, et qui restait celle de cette fondation, c'est « Je vais m'occuper des gens que tout le monde rejette », et il rajoutait « Au nom de mon maître, Jésus-Christ, Dieu, si vous préférez ». Et donc, voilà, rejetant cette notion de fous qui doivent être exclus de la société, il les avait inclus dans les soins qu'il voulait faire, et ceci avec un objectif spirituel. Donc, on est assez dans le... Dans le champ de notre réflexion d'aujourd'hui.
Bon, d'un point de vue médical, la folie a disparu, mais le mot continue d'être beaucoup utilisé, hein, fou.
Oui, mais justement, avec une connotation souvent...
trop large.
Beaucoup trop large, et le fou, on ne le côtoie pas, alors que quand on va parler, et vous le connaissez, de problèmes de type, je ne sais pas, bipolarité, des handicaps mentaux, des gens qui viennent de la naissance ou bien de l'autisme, bon, on se rend bien compte que, voilà.
Bah d'ailleurs, moi, je me retrouve dans ce que vous dites et c'est en phase avec ce qui est fait aujourd'hui, notamment sur la question scolaire. C'est-à-dire qu'on était à la base dans une séparation entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées. Et ensuite, on a été dans une intégration. Et là, aujourd'hui, on est dans l'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est de faire en sorte de s'adapter à l'handicap de l'autre et plus l'inverse. Voilà, tout simplement. Donc, ça rentre dans cette philosophie.
Bien, on va essayer de comprendre ce matin entre rejet, idolâtrie, culpabilisation, solidarité, bienveillance, charité. Quels sont les rapports des religions et quels sont les rapports qu'elles entretiennent avec donc les personnes que nous désignerons aujourd'hui par le thème de personnes handicapées. Donc on verra en islam, Ismaël Mounir, quel regard l'islam porte-t-elle sur les personnes handicapées?
Alors il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, il est considéré que le plus grand handicap, en fait, c'est pas forcément celui qu'on croit, c'est la cécité spirituelle, c'est-à-dire le fait que le cœur ne ressent plus les choses. Donc, on peut très bien avoir, par exemple, des gens qui auraient des gros handicaps physiques, etc., mais ils ont une grosse humanité dans leur cœur. Donc, c'est pas forcément ceux-là qu'on va considérer d'un point de vue coranique comme étant les plus handicapés. Mmh. Par exemple, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, énormément d'argent, alors je vais prendre une image qui serait dans l'air du temps, mais qui aurait énormément d'argent, mais qui contribue à détruire, je sais pas moi, des pans entiers sur terre, des forêts, qui créent de la pauvreté, qui sèment du chaos, du désordre, et qui ressent plus rien du tout. Peut-être que celui-là, on va pas l'appeler handicapé, mais d'un point de vue coranique, c'est le plus handicapé, parce que spirituellement parlant, en fait, il est mort, tout simplement. Il y a un récit qui est très connu où, en fait, le prophète, il a été réprimandé par Dieu dans le Coran parce que, en fait, il y avait un vieil aveugle, donc un homme âgé, aveugle, qui est venu le voir, qui s'est assis à côté de lui, qui voulait lui poser des questions sur l'islam. Et le prophète, en fait, il lui a montré que c'était pas trop le moment parce que lui, il se tournait vers des personnes qui étaient des notables de la société de l'époque. Et donc, il a négligé cet aveugle qui, lui, voulait... avoir des informations sur l'islam, et il s'est orienté vers des notables de la Mecque parce qu'il s'est dit, d'un point de vue stratégique, si j'arrive à convertir ces gens-là, c'est plus intéressant. Et donc Dieu a révélé des versets dans lesquels il l'a blâmé, donc c'est très connu, Abasa la sourate Abasa Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Donc il s'est renfrogné lorsque l'aveugle est venu à lui, et Dieu lui dit, ne fais plus ça. Parce que toi, tu considères peut-être que cette personne-là, il a moins de valeur que d'autres, mais tu n'en sais rien. Là, il y a un autre hadith du prophète dans lequel il est dit que c'est le prophète qui dit ça, Dieu ne regarde pas vos apparences physiques et il ne regarde pas ce que vous possédez, mais il regarde d'abord vos cœurs. puis vos œuvres.
Les religions à l'épreuve du handicap, c'est Spicuni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant. 10h-11h, Spicuni avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Spiritualité, culture, harmonie. Spicuni parle aujourd'hui des religions à l'épreuve du handicap avec Yacine Ilmi qui est avec nous. Patrick Lagarde, trésorier de la Fédération protestante de France, est avec nous. Nous avons sur ce plateau Alix Paulmier, présidente fondatrice de Fox P2, dont on parlera beaucoup aujourd'hui. Nous avons également avec nous Claude Roels, qui est professeur de philosophie, ancien directeur du diplôme universitaire qui parlait de laïcité. Et puis, nous avons Ismaël Mounir, imam conférencier, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, qui est avec nous. Mais Yacine, on démarre cette deuxième partie avec la citation.
C'est une citation de Grand Corps Malade, que vous, peut-être que vous connaissez, qui est artiste, chanteur, écrivain, musicien, poète, slameur. Et il dit, en fait, sur la question de l'handicap, les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre, bien au-delà de la volonté plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Quel regard les religions portent-elles sur le handicap? Est-ce que c'est une punition, Patrick Lagarde? Parce que ça peut être vécu pour beaucoup comme une punition.
Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Quand on prend la Bible et le Nouveau Testament, on se rend compte que pour certains, à l'époque, c'était une punition. Et la question a été posée à Jésus en disant « Mais cet homme est aveugle, qu'est-ce qu'il a fait comme faute ?» Lui, voire ses parents, pour qu'il soit. La réponse a été sans ambiguïté, en disant « Mais c'est la nature, mais c'est pas de sa faute. » Donc, il a clairement dissocié la maladie, le handicap, du péché, pour faire quelque chose de simple. Malheureusement, ça n'a pas totalement disparu. Et je pense que dans les religions, alors je ne connais pas l'islam, mais dans les religions chrétiennes, il y avait toujours cette suspicion, l'homme qui était fou, finalement, il était possédé par Satan. Donc c'était une punition. Derrière ça, je crois qu'il faut en permanence aider les personnes, surtout quand on prie Dieu pour une guérison. Et il y a toujours ce risque, et je le sais bien en tant que pasteur, de dire, si je prie, je vais être guéri, physiquement guéri. Et si on n'est pas guéri, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement il reste malade, mais en plus de ça, c'est qu'il a mal prié, ou les gens qui ont prié pour lui. Et donc, il faut impérativement, et je malheureusement en permanence, à avoir ce discours vis-à-vis des fidèles, enfin en permanence, pour certaines franges, j'allais dire, assez fondamentalistes, attention, la maladie, le handicap n'est pas une punition, n'est pas quelque chose, et on ne va pas faire intervenir Dieu dans des choses qui ne sont pas de son ressort.
Donc, mais c'est une des questions qui sont encore présentes aujourd'hui, des questionnements qui reviennent.
Oui, absolument. On appelle ça la théologie de la prospérité. Si vous priez bien, vous serez guéri. Si vous donnez beaucoup d'argent, vous serez riche.
Ouais.
Si vous voulez, il y a quand même des groupes évangéliques, alors on va dire en Amérique du Sud, je pourrais les citer, qui pratiquent ça. Et les pasteurs sont millionnaires, pour certains milliardaires.
Et donc, c'est un business, il faut le dire, et ça tourne drôlement bien même d'ailleurs.
Et c'est devenu un business, ça tourne bien. Et c'est, vu du côté, je vais dire, protestant, c'est une aberration. Et c'est à se demander si ces gens-là peuvent être clairement désignés comme chrétiens. Enfin, je vais un peu loin dans mon affirmation, mais...
On a bien senti qu'il y avait un point d'interrogation dans la façon dont vous avez chuté votre phrase.
Ah oui, enfin, si vous voulez, ma position, c'est que ces gens-là n'ont rien à faire dans le christianisme. Et donc, ils sont en train de pervertir l'esprit du christianisme dans ce domaine-là. Je ne connais pas la position, la position de l'islam du tout.
Alors, justement, Ismaël Mounir, sur la question de la punition, déjà...
C'est pas une punition, il n'y a rien théologiquement qui permet de l'affirmer. À ma connaissance, je ne connais pas un seul théologien qui dit ça. Généralement, c'est plutôt, on dit que toute personne qui subit quelque chose, un désagrément, en fait, il peut en espérer une récompense dans l'au-delà. Ensuite, après, dans les différentes cultures ou dans différentes contrées où il y a des pays musulmans, que certaines personnes puissent aborder ça comme une calamité, une souffrance, une punition divine peut-être, mais en tout cas, théologiquement parlant, il n'y a rien qui l'affirme. Après, dans la tradition musulmane, on a tout un pan du droit musulman qui est orienté vers le fait d'exempter celui qui a des difficultés. Ça fait partie de l'essence du droit musulman.
D'accord, mais là, c'est sur la pratique.
Sur la pratique, donc celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Celui qui ne peut même pas prier, ne faire aucun geste, il peut prier juste comme ça avec son cœur, etc. Et il y a aussi une autre tradition où il est dit qu'un aveugle, il est venu demander au prophète un allègement. Et le prophète lui a donné, puis finalement il lui a dit, mais tu n'as que de là à faire, il ne lui a pas donné l'allègement. Et c'est pour dire que même dans l'allègement, il y a un juste milieu en fait. On ne veut pas être dans l'assistanat avec l'handicapé, et même carrément leur accorder des responsabilités, puisque le prophète, lorsque un jour il est parti, les gens de Médine se faisaient agresser par les Quraychites, ils sont partis à leur rencontre, et celui qui a été nommé à la tête de Médine, c'est justement l'aveugle dont je vous ai parlé tout à l'heure, Abdullah ibn Ummi Maktoum, que le prophète avait nommé responsable de la ville de Médine, comme quoi il pouvait être aveugle, mais occuper des responsabilités politiques de premier plan. Donc on a un équilibre entre le fait d'exempter quand c'est nécessaire, mais de responsabiliser, voire même de donner des hautes responsabilités.
Et sur les maladies mentales, que dit l'islam ?
Ça fait partie du destin de la famille qui va recevoir. Et donc, il devient une épreuve pour ceux qui vont devoir s'occuper et faire preuve de...
Donc, c'est une épreuve. Ce n'est pas une punition,
La vie en islam est considérée comme une épreuve. C'est-à-dire, ça demande quand même beaucoup de patience de faire face à ce genre de situation. Et nous, aujourd'hui, on est en France. Mais imaginez dans certaines contrées où il n'y a pas tout le développement qu'il y a en France. C'est quand même un sacré défi à relever dans la vie.
Je pense qu'on peut rajouter une petite distinction entre le handicap inné et le handicap acquis. Que l'histoire est à ce moment-là un tout petit peu différente, et que lorsque le handicap est inné, on ne peut pas s'exonérer de la notion de culpabilité. Et que donc,
alors, on n'a pas introduit encore la notion de culpabilité, mais elle arrive. Oui.
Et que donc, sur cette histoire de culpabilité, il y a bien la recherche du responsable, et donc cette notion qu'il relie et à la faute et au péché. Donc, je vais peut-être très très vite, mais je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien fort sur le handicap inneux. Il y a trois notions qui sont très liées, qui est sur l'handicap inné, qui est la culpabilité, et de la culpabilité, l'origine du handicap, et donc la faute première. Et je pense que ces trois sujets sont liés, et ils sont des thématiques qu'on peut assez facilement relier à un héritage spirituel.
On va prendre du Claude Reuss sur le sujet. Qu'est-ce que ça inspire au philosophe que vous êtes?
Alors déjà, je ne parlerai pas évidemment de religion, mais je parlerai de ce qui est souvent le contraire de la religion. C'était déjà le cas pour Cicéron, qui ne parlait pas d'une religion chrétienne ou de l'islam, mais qui parlait de la religion romaine et qui opposait religion et superstition. Et ce ne sera pas pour réhabiliter la superstition, mais vous allez voir qu'au fond, ça n'en est pas loin. Bon, il y a quelques années, pendant 10 ans, j'ai enseigné des cours de philosophie à la mosquée de Paris. J'avais des étudiants qui étaient musulmans adultes, à peu près une douzaine, hommes-femmes mélangés. Et un jour, je leur avais fait un cours sur la montée du christianisme à Rome, et j'avais fait cette distinction religion-superstition qui était restée, je veux dire, peut-être un peu trop scolaire ou universitaire. Bon. Et il m'avait dit, oui, mais concrètement, des exemples concrets de superstition, hein, comme je ne suis pas un superstitieux profond, ça ne me venait pas, mais en mon bon vieux propre, j'ai dit, écoutez, la semaine prochaine, je vous en trouverai. Et je vous en trouverai d'autant plus facilement que je savais que dans la semaine, j'étais invité à Bernard Samicorse à dîner. Alors, un, on mange très bien, mais deux, c'est méditerranéen, il y a aussi des superstitions. Et je leur ai demandé, donne-moi des superstitions pour mes étudiants musulmans. Oh, ils m'en ont donné, alors je les ai oubliés maintenant, mais il y en a une dont je me suis fort bien souvenu, je m'en souviens toujours. C'est une femme enceinte qui fait son marché dans un petit village corse, et qui regarde l'étalage du fruitier, et elle voit des fruits rouges. Et le fruitier, le marchand de fruits, avant même qu'elle demande quoi que ce soit, peut-être elle n'en a pas forcément envie, mais le fait qu'elle regarde ces fruits rouges va lui donner une barquette en disant, tenez, je vous la donne, je ne la fais pas bien, je vous la donne. Et je dis, mais pourquoi? Et bien, ils disent, parce que si on refuse à une femme enceinte son envie de fruits rouges, l'enfant peut naître avec des taches de vin. Bon, évidemment, scientifiquement... Ça
on l'a tous semble, entendu. Voilà, hein,
bon,
oui.
Ça ne me semble pas très sûr. Et moi, je ne la connaissais pas. Bon, et je suis très fier de mon nouveau savoir, je dis ça le samedi à mes étudiants, et je vois une volée de mains qui se lèvent en disant « Ah mais non, mais attendez, ça c'est chez nous !» c'était pas le Rumi, vous êtes en train de nous piquer nos superstitions, mais il y avait un petit peu de ça en rigolant.
Le Rumi, c'est vous, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bon, autrement dit, c'est, et ça, ça devient intéressant. On a des superstitions qui concernent, par exemple, très profondément le bassin méditerranéen, parce que du coup, on s'est aperçu que c'est la même chose en Turquie, en Grèce, etc. Bon. Et si on regarde un petit peu ces superstitions, avec un autre œil qu'un œil justement réprobateur, ben on s'aperçoit qu'elles sont porteurs de craintes, d'espoir, mais d'un autre regard sur le handicap, qui est un regard qui serait purement médical ou purement juridique, et qu'au fond, bien vu, elles peuvent nous apprendre ce que disait Goethe, à savoir que les superstitions, la superstition peut être une certaine poésie de la vie. Alors, à condition, encore une fois, de l'apprendre de ce point de vue-là.
Vous êtes un spécialiste de Goethe, hein, pour ceux qui nous écoutent. Oui. Donc, personne n'est parfait, mais...
Il fallait bien que je le place.
Voilà, non, mais je me demandais à quel moment vous le placeriez. Et voilà.
C'est fait. Voilà.
C'est pas facile. Hein.
Mais si je comprends bien dans ce que vous dites, c'est pour la question de l'handicap, il y a naturellement des superstitions. Où on peut penser naturellement que c'est à cause de ce que j'ai fait ou de ce que voilà. Je suis que j'ai eu ce.
Oui. On en revient à la culpabilité. Ouais, là.
Voilà.
Ouais. Je pense qu'il y a un message à dire, c'est que finalement, pour l'handicap inné, comme disait Alix, c'est pas un malheur en soi. C'est-à-dire que je pense que c'est important que les auditeurs et les auditrices l'entendent. Avoir un enfant handicapé, ce n'est pas un malheur. Ça peut être et c'est aussi une source de bonheur, tout simplement. Mm. Parce que la personne en elle-même, elle peut vous apporter des choses impressionnantes.
Sur la culpabilité en islam, Ismaël Mounir.
Alors si, il peut y avoir alors par exemple pour le handicap, non pas inné, mais celui qui va être acquis à la suite d'un accident, on peut le prendre comme ça. Mais justement, la spiritualité musulmane pousse à toujours appréhender les choses qui peuvent nous arriver dans la vie et de prendre les choses du bon côté. Après maintenant, je pense que la vie est un verre à moitié rempli et on peut décider qu'il est à moitié vide et comme on peut décider qu'il est à moitié plein. Mmh. Donc vous pouvez prendre deux personnes qui sont handicapées et elles vivent leur handicap de manière radicalement différente. Après, je pense que c'est plus un travail sur soi, un travail personnel. Et dans ce cadre-là, la foi, elle peut aider. Voir si on la prend du mauvais côté, la foi, elle peut être aussi un calvaire. Parce que si je considère que j'ai été maudit et que c'est ce qui m'arrive, c'est une catastrophe.
Alix.
Je suis en train de me dire, mais au fond, que ce soit de la culpabilité ou quelque chose qui est de l'ordre de la grâce ou de l'opportunité de découvrir autre chose, il y a toujours dans tout à coup, le handicap est toujours une effraction. C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée de l'impensable et je pense qu'il est, il est dans la nature de l'homme de chercher à donner du sens à l'impensable. Et donc, que ce soit de façon négative, dans chercher une cause, une origine, une faute première, quelque chose qui est de cet ordre-là, ou lui trouver un sens positif, c'est quel en est le message, du coup, quelle est ma cause, quelle vocation va venir autour de ce handicap, on cherche toujours à essayer de lui donner un sens pour pouvoir se l'approprier, parce que sinon, il est très difficilement pensable. Je crois qu'il y a quelque chose là-dessus. Mm.
Comme c'est le cas de toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie.
Donner du sens, c'est la voie qui peut permettre de mieux vivre les choses. Maintenant, après, c'est justement quel sens on lui donne.
Ouais. Claude Ruelz.
Alix a employé le mot grâce, qui évidemment est un mot qui a été, j'ose pas dire, réquisitionné, mais qui a été largement employé par le monde religieux, notamment chrétien. Mais au fond, pour garder une sorte d'horizon laïque et en même temps bienveillant à notre propos, qui est quand même un propos grave, c'est-à-dire qu'on parle du handicap, et je pense que en parlant, on peut avoir à l'esprit cette parole d'un poète qui est Saint John Perse et qui disait que la tristesse des hommes est dans les hommes, mais cette force aussi qui n'a de nom et cette grâce par instant dont il faut bien qu'ils aient souri. Et si nous réussissons à accueillir ce sourire de cette grâce, alors qu'on peut soit trouver poétique, soit trouver religieuse selon la situation et le choix de chacun, eh bien, je crois que nous aurons déjà fait beaucoup pour ce genre de questions.
Je ne sais pas qui employait le mot respiration lors de nos émissions, mais en tout cas, après Saint John Perse, il faut absolument une respiration pour rester avec ça et bien méditer ses paroles. C'est Spicuni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Spicuni revient dans un instant. 10h-11h, Spicuni avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On parle des religions à l'épreuve du handicap aujourd'hui avec Yacine Imi, mais nous avons invité aujourd'hui Alix Paulmier, qui est présidente fondatrice de Fox P2. Alors c'est intéressant, c'est une start-up. On rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est une start-up qui propose à des enfants en situation de handicap donc des séjours linguistiques à l'étranger.
Alors, c'est pas forcément du séjour linguistique, c'est une plateforme de mise en relation, un peu comme d'autres typologies de plateformes de mise en relation, qui souhaite mettre en relation les familles. Aujourd'hui, pour le moment, on est sur un espace européen, dans le but de faciliter la mobilité des jeunes. Et ça, quel qu'en soit l'usage qu'ils en font.
D'accord, donc sur concrètement, du handicap mental, voilà, ça sera pas forcément concrètement, ça peut déboucher sur quoi, Alix ?
Ben, ça peut déboucher sur j'ai l'intention de partir. J'ai trouvé un stage à Édimbourg et je suis aveugle et je vais me trouver soit une famille d'accueil qui va pouvoir m'héberger quelques jours en attendant que je me trouve un studio, soit un copain qui est dans la même situation que moi et qui va pouvoir m'aider dans la mobilité à travers la ville, m'aider à faire les repérages nécessaires. Ou ça peut être aussi, il va pouvoir m'orienter parce que j'ai absolument besoin de me trouver un dentiste et un dentiste qui va pouvoir comprendre peut-être les particularités dans le traitement du soin. C'est un système de facilitation de gens qui partagent les mêmes difficultés et les mêmes challenges. Et aujourd'hui, il y a peu de solutions sur la mobilité européenne, sur les jeunes en situation de handicap. Et donc, du coup, pour eux, l'Europe n'est pas une expérience pratique. Ça n'est pas un accès. L'accès à la citoyenneté européenne n'est pas la même pour tout le monde. Et ça constituait, me semble-t-il, un élément de discrimination important, surtout quand on sait que une première expérience d'expatriation, un peu de maîtrise des langues étrangères, sont quand même des facteurs extrêmement importants aujourd'hui pour entrer sur le monde du travail. Et ça me paraissait vraiment un sujet d'égalité des chances qu'il fallait traiter. Et on arrive à une époque où des nouveaux modèles de coopération arrivent à maturité. Ce qu'on appelle les nouvelles économies du partage, et que peut-être que les populations d'aidants autour du handicap sont peut-être plus que d'autres sensibles à ces logiques de coopération et d'entraide.
J'avais vu sur votre page Facebook un petit montage vidéo, un petit dessin animé qui expliquait le concept. Ouais. Et dans lequel on voyait un enfant qui était aveugle.
Ouais.
Et qui allait dans une famille en Angleterre où je
ouais.
Et qui avait un enfant aussi qui était aveugle. Donc les dispositions étaient beaucoup plus simples.
Absolument. On part du principe que les familles partagent soit les mêmes aménagements, lorsque c'est sur des aménagements de douche, des aménagements de sirène en visuel, etc. Soit les mêmes aménagements, soit les mêmes savoir-faire. J'insiste beaucoup sur cette notion de savoir-faire parce qu'au fond, c'est aujourd'hui un peu le gros des inscrits. C'est qu'on va être sur... des troubles du spectre autistique, du trouble déficitaire de l'attention, des pathologies de type diabète insulino-dépendant, des maladies de Crohn. Là, on est plutôt sur des pathologies et où c'est surtout en termes de compétences, et des compétences de régime alimentaire, des compétences de qu'est-ce que je fais s'il y a un coma insulinique. Donc c'est des savoir-faire que les familles ont en commun et qui donc facilite la mobilité.
Est-ce que dans cette plateforme, vous prenez aussi en compte des demandes ou des aménagements religieux, c'est-à-dire par rapport à la nourriture, par exemple, ou par rapport à la pratique de...
Alors, c'est très intéressant que tu me poses cette question. En fait, ce que fait la plateforme, c'est qu'elle te met en relation avec les profils de famille te correspondant. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un trouble déficitaire de l'attention, ou un trouble 10 un peu sévère, tu vas rentrer ces éléments-là, et donc le moteur de recherche va chercher dans la base de données des familles correspondant à ces critères-là à plus ou moins 3 ans. Donc on va trouver un autre garçon présentant les mêmes troubles. Après, tu vas rentrer en relation avec ces familles, voir si elles sont disponibles, ouvertes à cette possibilité de l'échange, et c'est toi qui vas préciser, spécifier, sélectionner celle qui te ressemble le plus. Nous ne sommes pas rentrés, alors pour tout un tas de questions assez subtiles de data que tu comprends forcément vu que tu es dans le même domaine, des questions de data un peu subtiles, on n'est pas rentré dans un questionnaire spécifiant les types de régimes, d'autant qu'on va entrecroiser, moi je suis plutôt sur les questions de data de santé, et donc on risque d'entrecroiser de la donnée de type halal avec de la donnée glycémie, pas de gluten. Donc là, le questionnaire, il va devenir... voilà.
Alors ça s'adresse à des jeunes qui ont quel âge?
Alors on n'a pas... Au départ,
il n'y a pas d'âge.
Non, il n'y a pas d'âge. Au départ, je m'étais dit, moi, je vise surtout à faciliter, en gros, le parcours scolaire, le parcours lycée. Et puis finalement, quand on a fait nos premières enquêtes terrain, il y a souvent dans le parcours d'un jeune en situation de handicap des ruptures dans sa trajectoire et ou scolaire et ou étudiantine. Et donc, au fond, la majorité des inscrits aujourd'hui a plutôt 21-22 ans. Et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si vous voulez vous inscrire et que vous trouvez
c'est peut-être ceux qui se déplacent le plus finalement parce qu'ils sont dans un cursus où ils vont plus à l'étranger
où ils se prennent une mois de césure pour réfléchir, oui, c'est probablement ça.
Comment on s'inscrit alors, pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient vous rejoindre, de quoi est-ce que vous avez besoin?
Eh bien, vous vous inscrivez, vous créez un profil, vous renseignez votre profil. Alors, je précise que c'est un tout petit peu long par rapport à certains sites qui sont très accessibles parce que nous avons été très vigilants à la question de la sécurité des données et que donc du
forcément,
coup
forcément parce que ça concerne la santé, c'est
ouais.
sensible.
Et donc ouais. du coup on a été très très prudent là-dessus. Donc l'inscription se fait en plusieurs étapes de validation. Enfin, le système est très sécurisé. On est et ensuite vous pouvez selon
donc,
les
l'adresse
c'est www.foxp2.eu.
Foxp2 voilà.
.eu.
Et donc après vous c'est gratuit.
Alors, c'est complètement gratuit. Voilà. Par contre, vous pouvez attendre un peu. C'est-à-dire que si votre pathologie a une prévalence un peu rare, vous pouvez ne pas trouver tout de suite, selon votre âge ou votre pathologie, deux personnes vous correspondant. Et dans ces cas-là, il y a un système d'alerte mail qui vous signale quand quelqu'un s'inscrit, vous correspond.
Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Claude Orwell, ce qui est fondamental. C'est comment est-ce que les religions peuvent contribuer à nous faire changer le regard que nous avons sur le handicap? Parce que souvent, les personnes handicapées, on ne les voit pas dans la société, mais nous, on ne peut pas les voir, Ismaël Mounir.
Alors, je pense que
les gens se cachent. Vous savez que souvent, quand vous avez un enfant, voilà, ou handicapé, tout ça, vous protégez du regard des autres. Hein.
J'ai cité déjà tout à l'heure le comportement du prophète, c'est-à-dire que oui, le droit musulman pour leur permettre de pratiquer, parce qu'ils sont considérés comme les autres finalement. Il y a de l'allègement, mais l'objectif, c'est pas l'assistana. Deuxième chose, le fait de leur donner des responsabilités, c'est-à-dire qu'un quelqu'un, il peut très bien avoir un handicap et posséder des compétences, donc voilà, il est une personne humaine à part entière. De ne pas juger l'apparence physique, parce qu'on peut avoir par exemple des gens handicapés qui possèdent de multiples talents. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le prophète, il a parlé avec des handicapés et il leur a dit « Votre handicap ne vous poursuivra pas après votre mort ». C'est-à-dire que dans la croyance islamique, on ne considère pas qu'une personne qui était handicapée sur Terre lorsqu'elle va être ressuscitée, elle aura son handicap. Donc voilà, je pense que tout cet aspect des choses-là...
Est-ce que les personnes handicapées sont présentes beaucoup à la mosquée?
Alors, c'est toujours pareil, c'est que c'est le problème de...
L'aménagement.
Le problème d'aménagement. Mais maintenant, en France, avec les lois françaises, il y a beaucoup de bâtiments. Par exemple, moi, je me rappelle qu'en 2011, j'avais assisté à un colloque à la mosquée de Gennevilliers. Et donc, il y avait eu plusieurs conférences. Et moi, j'avais animé une conférence sur le handicap en islam. Enfin, on me l'avait collé. C'était pas spécialement mon sujet. Et par humilité, parce que je voulais pas parler, j'avais demandé à ce que des handicapés puissent parler. Et donc, on avait fait venir tous les gens qui fréquentaient la mosquée. Et donc, ils avaient pu s'adresser aux fidèles. D'ailleurs, c'était assez émouvant parce que leur avait dit, voilà, des fois, vous mettez mal vos chaussures. On est gêné avec le... Et donc, on avait sensibilisé les gens, justement, à avoir plus de civisme pour permettre à ces gens-là de venir. Après, des fois, il y a des problèmes parce que les gens viennent avec leur fauteuil. Donc, c'est mouillé dehors, la moquette. leur dire ben, c'est pas grave, c'est pas parce que la moquette va être mouillée qu'on va empêcher les gens de prier. Donc on avait fait une sensibilisation par rapport à ça.
Patrick Lagarde, en quoi est-ce que les religions peuvent contribuer à changer le regard qu'on a sur le handicap?
Ben, je crois que là, il existe une loi d'ailleurs en France qui oblige les églises, entre autres, hein, les bâtiments publics et les églises en particulier, de permettre l'accès aux handicapés. Et alors c'est vrai que c'est un investissement très onéreux, mais en même temps ça oblige chacun à avoir, et je parle bien des handicaps, c'est pas uniquement le handicap moteur, c'est le handicap visuel, c'est le handicap tous les handicaps auditifs, sensoriels. Étant moi-même administrateur d'une maison de retraite dans le midi de la France, voilà, donc on fait des rénovations qui traitent de ces sujets-là. Et qui permettent effectivement à ces personnes de se sentir mieux, finalement.
Et ça profite à tout le monde, d'ailleurs.
Et ça profite à tout le monde. Et vous avez parfaitement raison.
Faut dire. Alors, Alix Paulmier, on rappelle l'adresse du site pour s'inscrire.
www.foxp2.eu. Inscrivez-vous nombreux.
Toutes les informations sont sur la page Facebook de l'émission, hein, Yacine.
Oui, tout à fait, Speak Uni.
Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Bon week-end et à dimanche prochain.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.